À la une de l'actualité cette semaine, un conflit vieux d'un mois est déjà complètement oublié. Au Soudan du Sud, moins de 2 ans d'indépendance, déjà la guerre, des milliers de morts. Et l'ONU qui se demande comment en avril prochain elle secourra 400 000 déplacés internes. Deux anciens alliés politiques s'affrontent, le président Salva Kiir, son ancien numéro 2 Riek Machar. Aux côtés de l'Union africaine, une communauté catholique tente de les réconcilier. Explication de Mauro Garofalo des relations internationales de Sant'Egidio.
Qui a obtenu l'indépendance contre tout le monde. Donc ils ont obtenu quelque chose qui c'est presque un miracle. Mais ils n'ont pas vraiment bâti l'État, ils n'ont pas vraiment bâti l'unité. Donc c'est surtout ça. On parle toujours des affrontements, mais ce n'est pas un affrontement interreligieux, car tout le monde est chrétien. Je pense que ce n'est même pas un affrontement ethnique, c'est surtout un affrontement politique sur la partition du pouvoir. Et la seule voie et la seule solution que je vois, c'est un dialogue politique, car il s'agit du même parti. Donc c'est entre eux qu'il faudra trouver la voie de se parler, de se coopérer encore une fois.
Dans la capitale centrafricaine, soupir, joie ou crainte de nouvelles violences, en tout cas, celui qui n'a pas su mettre un terme au meurtre, au viol, au pillage en Centrafrique, le président Michel Djotodia, porté au pouvoir en mars dernier par la Séléka, a remis sa démission vendredi à N'Djamena. Le Tchad qui n'y est d'ailleurs pas pour rien. Les explications de Léonce Kungon, il est chercheur au Centre d'études des crises et des conflits internationaux à Louvain.
La succession aura lieu à N'Djamena. Le Tchad qui a vraiment pris une position prépondérante dans la sous-région aujourd'hui, notamment à travers le président Déby, c'est un doyen, 24 ans de pouvoir, et qui est un faiseur de roi. Mais si le président Déby a été très actif sur le terrain diplomatique ces derniers jours, c'est parce que les rebelles de la Séléka voudraient notamment créer un État au nord. Ce positionnement, je pense qu'il n'est pas très intéressant pour le Tchad.
La conférence de paix sur la Syrie est prévue le 22 janvier prochain, et alors que les Occidentaux essayent encore de convaincre l'opposition modérée à y prendre part, sur le terrain aussi, on affine sa stratégie politique. Depuis une semaine, les islamistes non-djihadistes et les soldats de l'ASL, l'armée syrienne libre, combattent leur ancien allié, l'État islamique, en Irak et au Levant. Romain Caillé est spécialiste des questions islamistes à l'IFPO, à Beyrouth.
Le but de l'ASL et peut-être du Front islamique, c'est d'éliminer l'État islamique en Irak au Levant pour que les Américains puissent à Genève de faire un deal entre le régime et l'opposition. Le Nord et l'Est partagés entre l'ASL et les islamistes modérés ou les salafistes non djihadistes, et le reste du pays, négociation entre les rebelles et le régime. Tandis que le régime, de l'autre côté, vise à vendre une solution sécuritaire en insistant sur l'influence des djihadistes.
Les ténèbres continuent à s'amonceler sur la Syrie. Ce samedi, le cardinal Sandri a demandé un rayon de lumière, comme par exemple l'ouverture de couloirs humanitaires dans le pays. Le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales s'est déplacé au Liban pour l'ordination du nouveau vicaire apostolique d'Alep. Que peut-il faire? Que peuvent faire les chrétiens pour la paix en Syrie? Monseigneur Antoine Audot est l'évêque chaldéen d'Alep.
Déjà, les chrétiens, par leur comportement, ils ne se sont pas mis d'un côté ou de l'autre, surtout dans le sens de solidarité, de service. Je suis convaincu que les chrétiens doivent indiquer ce chemin de vraie citoyenneté, être de vrais croyants et de vrais humains, ne pas se laisser enfermer dans un esprit de confessionnalisme, dans un esprit de tribalisme qui exclut l'autre.
En Tunisie, Ennahda a remis les rênes du pouvoir. Un nouveau Premier ministre a été nommé dans la foulée de progrès déjà signifiants de l'Assemblée constituante. Une série d'articles a été adoptée, dont l'égalité sans discrimination des citoyens et des citoyennes. Un pas important pour Vincent Geisser, chercheur à l'IRMAM.
Comme c'est un principe constitutionnel, les effets de droit dans les jugements ordinaires seront réels. Ce sera une base juridique objective pour défendre, consolider le droit des femmes dans les années à venir en Tunisie. Mais il est vrai que c'est aussi une société méditerranéenne et que de ce point de vue-là, la Constitution est un symbole fort, mais ne va pas avoir cette capacité à elle seule à réformer la société dans le sens de l'égalité homme-femme.
Des progrès, mais pas pour tous, en Tunisie et dans l'ensemble d'ailleurs des pays qui ont connu un printemps arabe. C'est ce que nous explique Michel Varton, le directeur de Porte Ouverte. L'ONG protestante a publié son index des persécutions contre les chrétiens. Elles ont augmenté.
Le pays du printemps arabe ne voit pas un printemps pour l'Église, mais en fait plutôt un hiver. Deux pays qui sont vraiment très frappants, c'est la Syrie, qui est passée de 36e place il y a quelques années à aujourd'hui 3e place dans l'index. L'Égypte, elle est 4e au niveau de la violence contre l'Église. Et finalement, c'est plutôt un constat, les pays en faillite, c'est là où l'Église est souvent persécutée.
Et il serait ainsi près de 150 millions de chrétiens de par le monde à être discriminés physiquement, menacés ou encore pourchassés. Et puis enfin, retour à Rome, la congrégation des Légionnaires du Christ a ouvert son chapitre général. À nouveau, une demande de pardon pour les crimes, la vie dissolue du fondateur de la congrégation, mais aussi l'envie profonde d'aller de l'avant. Les explications du père Thomas Brenti, il est l'assistant du provincial pour l'Europe occidentale des Légionnaires du Christ.
On a voulu tout remettre en question pour voir ce qui, dans notre mode de vie, a pu être modifié, altéré par la personnalité du fondateur. Donc c'est vrai que des grands thèmes sur lesquels on a réfléchi, c'est la liberté intérieure, la confiance qu'on peut avoir les uns envers les autres, c'est une charité très authentique, dans l'exercice de l'autorité, une responsabilité mutuelle, que la responsabilité soit pas juste du côté des supérieurs, mais que voilà, chacun se sente partie prenante dans la vie de la communauté. Et on espère que ce chapitre général, tout ce qui a précédé d'ailleurs, que ces 3 ans et demi de réflexion vraiment profonde, et puis d'examen de conscience, de prière, etc., que ça n'aura pas été en vain.